Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Éléonore Verne. Bonjour Éléonore Verne et bienvenue à nouveau sur La Vague Matinale.
Bonjour, merci de me recevoir à nouveau, c'est un vrai plaisir.
En tout cas, c'est également un plaisir pour nous de vous recevoir. La dernière fois qu'on s'était eu au téléphone, vous étiez à Singapour. Depuis, vous avez poursuivi votre incroyable tour du monde en explorant la Thaïlande, l'Inde, la Malaisie, le Vietnam et Taïwan. Et vous voilà aujourd'hui de retour en France pour une petite pause bien méritée avant de repartir bientôt pour l'Amérique latine. Votre aventure, elle est un peu particulière. Vous avez choisi de voyager seul et en fauteuil roulant. C'est un défi personnel fort que vous avez décidé de relever pour enrichir votre pratique de la sophrologie, mais aussi pour recenser et partager les lieux accessibles aux voyageurs en situation de handicap. Éléonore Verne, vous avez déjà parcouru une belle première étape de votre tour du monde. Comment s'est déroulé ce début de voyage ?
Alors déjà, vous avez magnifiquement résumé mon projet. Et cette première étape, eh ben, elle s'est aussi magnifiquement déroulée. Je dis aux gens là, depuis que je suis rentrée, que en fait tout ce que j'ai fait, c'est prendre un avion, et qu'après en fait je n'ai fait que recevoir et que apprendre par tous les gens que j'ai rencontrés, par toute l'aide, l'amour et l'amitié et toutes les belles choses que j'ai reçues. Et c'est par ces belles rencontres que en fait j'ai pu faire peut-être 90% de tout ce que j'ai fait. Donc c'est assez magique honnêtement, et c'était vraiment un très beau voyage. Alors effectivement, il y a eu des galères, il y a eu des choses compliquées, il y a eu des pays où c'était un peu plus difficile que d'autres, mais ce que j'en retire, c'est que je reviens remplie de tout ce que j'ai pu apprendre.
Et quelles ont été aussi vos premières impressions à Singapour ? Parce que c'est une ville souvent citée comme un modèle en matière d'accessibilité. Est-ce que ça a vraiment répondu à vos attentes ?
Alors, Singapour, oui et non. C'est-à-dire que dans la partie très moderne de la ville, on est effectivement dans la ville du futur. Et c'est accessible de partout. Il y a des rampes, des portes automatiques. C'est même surprenant. Et on a vraiment l'impression d'être dans le cycle et dans le siècle suivant. Mmh. Voilà. En revanche, quand on va dans d'autres quartiers de Singapour, parce que c'est donc une cité-état, mais où il y a un quartier indien, un quartier chinois, c'est toujours accessible, mais c'est un peu plus sport. Et on se sent un peu plus en Inde, un peu plus en Chine, par rapport à l'accessibilité. Alors ça, c'est quelque chose que je peux dire avec le recul, parce que je suis allée en Inde, et donc j'ai vu, et je ne suis pas allée en Chine, mais je suis allée à Taïwan, et puis j'ai fait plein de quartiers chinois, parce qu'en fait, en Asie, il y a plein de quartiers chinois partout. Donc voilà, Singapour, c'est effectivement un modèle sur beaucoup de points en termes d'accessibilité, mais je mets quand même un bémol sur le fait que dans les quartiers un peu moins modernes, tout n'est pas parfait, mais après, il y aura quand même des rampes. Il y aura quand même des gens qui aideront, mais ce sera des rampes de compète.
Parce que du coup, ça veut dire que quand, admettons, il n'y a pas de rampe, c'est les gens qui vous aident à porter votre fauteuil roulant, ça se passe comme ça ?
Ça se passe comme ça.
Du coup, c'est-à-dire que les gens, ils vous voient entre guillemets galérer, ils viennent directement à vous, ou c'est juste vous qui allez leur demander de l'aide ?
Non, ça c'est une grosse différence que j'ai pu remarquer entre la France et l'Asie, c'est que dans beaucoup de pays, on n'a même pas besoin de demander de l'aide, que les gens viennent naturellement. Et certains demandent si on a besoin d'aide, mais beaucoup voient que de toute façon, j'ai besoin d'aide, donc ils m'aident. Et c'est naturel et c'est fluide et c'est très très agréable parce qu'on se sent on se sent considéré comme n'importe qui d'autre qui a juste besoin d'un petit coup de main et puis ces petits coups de main parfois ils durent une minute, deux minutes, trois minutes, et puis parfois ils durent un jour, deux jours, trois jours, et on se fait des amis et c'est ce qui permet aussi de découvrir de belles choses.
Oui, parce que justement vous l'avez dit aussi que votre souhait c'était de laisser une grande place à l'imprévu et en rencontre humaine dans ce voyage. Du coup, ça veut dire que vous avez rencontré des personnes, ou il y a eu une rencontre en particulier qui vous a touché ou inspiré ?
Alors il y en a eu tellement que ce sera difficile d'en choisir une. Mais je peux citer par exemple, je vais en citer deux. Il y a eu une rencontre en Thaïlande où j'ai pu passer du temps avec une famille locale de Thaïlandais, et où j'ai pu découvrir vraiment la culture la culture thaïlandaise, loin des standards touristiques et de ce qu'on fait quand on est un touriste. Et aussi à Taïwan, où sur la fin de mon voyage, j'étais dans un endroit qui était censé être accessible et qui au final ne l'était pas. Et puis une adorable personne m'a dit « Est-ce que tu as besoin d'aide ?» On était dans la même chambre en auberge de jeunesse. Et j'ai répondu oui. Et en fait, on a passé 3 jours ensemble. Elle était venue à Tainan, en l'occurrence, avec ses amis pour passer des petites vacances. Et elle m'a dit « Ben, tu vas venir avec moi, en fait. » Et on a passé 3 jours et j'ai rien fait de touristique. J'ai fait ce que les locaux font. Et en l'occurrence, à Tainan, on y va pour manger. Et moi, en plus de découvrir de la super bonne nourriture, je me suis aussi fait des amis.
Et est-ce que ça fait partie aussi des moments durs du voyage, ces moments qui sont éphémères et intenses, mais au bout d'un moment, on doit quitter ces gens-là?
Ah bah c'est sûr que c'est pas des plus faciles émotionnellement, parce qu'on sait que c'est des gens qu'on reverra peut-être pas. Après, moi, j'ai l'espoir de me dire que ces gens, je les reverrai et qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Bah, voilà, en fait, en voyage, il faut accepter le fait que certaines rencontres sont éphémères et resteront éphémères, et d'autres sont éphémères et pourront se poursuivre. En fait, je suis OK avec les deux options, parce que dans tous les cas, ce que j'en retiens, c'est ce que j'ai vécu, c'est le moment présent. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris en Asie, c'est que un jour, quelqu'un m'a dit « Mais tu sais, ce qui importe, c'est ici et maintenant, parce que hier n'existe plus, hier est mort, et demain, on ne sait pas. »
Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément la même philosophie de vie que nous. Est-ce que vous avez ressenti un choc culturel ?
Complètement. C'est opposé sur tous les plans.
C'est-à-dire, par exemple ?
L'exemple que je viens de vous donner, sur le fait qu'on est dans l'ici et maintenant, et ce que je pense qu'en Occident, on aurait aussi besoin de se rappeler. Il y a la connexion à la nature, la connexion aux éléments, la connexion avec les animaux, le fait de d'être plus connecté en fait à l'environnement qui nous entoure et à ralentir. En Europe, on est tout le temps en train d'aller vite, on est tout le temps en train de se dire qu'on a un agenda, qu'il faut respecter des délais, et là-bas, il n'y a pas d'agenda. Le temps est complètement élastique. Alors, c'est pas forcément facile à vivre, hein, parce qu'il faut s'adapter à ces différences de culture-là. Mais moi, là, en rentrant, j'ai clairement le choc des cultures dans l'autre sens.
Et du coup, là, vous essayez de prendre votre temps en France ou vous remettez dans le rythme français, entre guillemets, qui est très speed ?
À votre avis ?
Je pense que vous prenez le temps. Non, je sais pas. Non, vous êtes une mauvaise élève, vous repartez dans le speed.
Non, j'essaye justement de prendre le temps. Enfin, ça fait aussi partie de mon travail. Je suis sophrologue, donc l'idée, c'est d'avoir appris en fait de ce voyage et de ce que j'ai vécu. Et une des principales choses que je me rappelle, même en étant ici, c'est prendre le temps et profiter de l'instant, parce qu'il ne reviendra pas.
Justement, vous venez de le dire, vous êtes sophrologue, c'était l'un de vos objectifs aussi de ce voyage, c'est aussi d'enrichir votre pratique en sophrologie en allant à la rencontre de ces racines orientales. Est-ce que vous avez pu, je pense que vous avez pu mettre en pratique de nouvelles choses sur le terrain ? Enfin, vous avez appris de nouvelles choses ?
Oui. Notamment, alors dans chaque pays, j'ai appris des choses. Et dans chaque moment de mon voyage était propice à un apprentissage. Par exemple, en Thaïlande, c'était le début de mon périple, et c'était la manière douce de me montrer ce qu'était le lâcher prise. Le lâcher prise en Occident, on a tendance à y mettre une définition, et je me suis rendu compte que, en fait, c'était beaucoup plus profond que ça, et qu'il fallait vraiment, en fait, arriver à lâcher le mental et à ne plus penser à tout vouloir tout contrôler, parce que c'est pas possible. Et que parfois, c'est en arrêtant de vouloir tout contrôler que les choses se passent de manière plus fluide. Donc ça, c'était la manière douce. Et puis après, j'ai débarqué en Inde. Donc différence de culture, différence de population, différence de tout. Voilà, c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus rapide. Et là, j'ai appris que le lâcher prise, et c'était encore plus profond, en fait. Donc, j'ai eu la manière douce en Thaïlande et puis la manière un peu brute en Inde. Oui, effectivement, ça a grandement enrichi ma pratique.
Donc ça veut dire que, par exemple, enfin, je sais quand on part en voyage tout seul, c'est pas toujours évident aussi au niveau du mental, déjà enfin, de lâcher le mental. Des fois, on doit être peut-être triste sûrement. Et du coup, là, ça veut dire que tout ce que vous venez de nous raconter, enfin, vous avez essayé de l'appliquer sur vous-même pendant ce voyage.
Il a fallu que je l'applique.
C'est nécessaire.
Parce que sinon, je pense que je n'aurais pas passé le même voyage. Si j'étais restée dans mon état d'esprit initial en arrivant, c'est-à-dire de vouloir... En fait, j'étais inquiète j'étais inquiète que le fauteuil soit abîmé, par exemple. J'étais pas inquiète pour moi.
Il a tenu ou pas le fauteuil roulant?
Il a tenu. Il a tenu. Il est un petit peu abîmé et il va falloir que je fasse des ajustements avant de repartir, mais il a tenu.
Et est-ce que vous avez aussi, pendant votre voyage, enfin, vous avez pu sensibiliser certaines personnes ou certaines structures à l'accessibilité, justement?
Alors oui, pendant mon voyage, j'ai essayé déjà de référencer les endroits qui étaient accessibles et les autres, ceux qui l'étaient moins. Donc, j'ai fait notamment ça beaucoup via les réseaux sociaux et via Instagram. Donc, où j'ai partagé ce que j'avais pu vivre. En termes d'accessibilité, plus spécifiquement, j'en ai parlé tout autour de moi, en fait, tout le temps. Et puis la même chose avec la sophrologie, où j'ai proposé des séances sur mon chemin, soit à des Français qui étaient là en vacances, soit des expats qui étaient là plus longtemps, même à des locaux sur la fin.
Et du coup, là, vous venez de dire que vous les avez référencés. On peut les trouver où, ces références, sur votre compte Instagram?
Principalement, oui.
Et là aussi, vous allez, enfin là, vous faites une petite pause en France. Vous allez aussi partir prochainement vers l'Amérique latine. Comment vous vous sentez? Comment vous avez préparé cette nouvelle phase de voyage? Enfin, c'est quoi vos envies, vos attentes ou vos craintes pour ce prochain voyage?
Eh ben, je vais essayer d'appliquer ce que j'ai appris en Asie, c'est-à-dire un peu plus me laisser porter et moins organiser. L'handicap induit une organisation, une anticipation. On est obligé de le mettre en place, voilà. Mais ce que je me suis rendu compte avec cette première partie de voyage, c'est que ben j'avais trop planifié parce que il y avait des moments où j'avais envie de rester plus à un endroit. Il y avait quasi tous, en fait, et je pouvais pas nécessairement. Alors quand c'est des contraintes de visa et quand c'est des contraintes administratives, il n'y a pas le choix. Mais quand c'est juste parce qu'on a trop planifié la suite et que du coup on se sent un peu bloqué à se dire bon, il faut que je continue, alors que ben, notre cœur nous dit ouais, mais ce serait bien de se poser là. Voilà, et ben, je vais essayer d'un peu plus trouver le juste milieu entre l'organisation et le fait de se laisser porter.
Vous
Et
allez
on
essayer
verra
de
ce que ça va donner.
vous laisser surprendre, en tout cas.
Oui, tout en ayant quand même une forme de contrôle pour qu'il ne m'arrive pas de grosses
Galère.
galères.
Oui.
Voilà. Mais dans tous les cas, il y en aura.
En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, Éléonore Verne. On le rappelle, vous vous êtes lancé un pari remarquable, faire le tour du monde en fauteuil roulant. Vous avez déjà entamé votre première partie de voyage entre Singapour et Inde. Nos auditeurs peuvent aussi suivre votre prochaine aventure en Amérique latine sur votre compte Instagram odyssée.éléonore.verne.